Bonjour à tout le monde. Nous allons continuer ce matin notre parcours dans l'épître de Paul aux Philippiens et nous lirons une partie du chapitre 3 aujourd'hui. Philippiens 3, les versets 1 jusqu'à 14. Et maintenant, mes frères, mes sœurs, réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je ne me lasse pas de vous le répéter, ce que j'ai déjà écrit, et pour vous, cela vaut bien mieux. Prenez garde à ceux qui commettent le mal, ces chiens, ces partisans d'une fausse circoncision. En fait, c'est nous qui avons la vraie circoncision, car nous servons Dieu par son esprit et nous mettons notre fierté en Christ. Et nous ne fondons pas notre confiance sur les privilèges humains. Pourtant, je pourrais, moi, me réclamer de tels privilèges. J'aurais plus de raisons de le faire que qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le huitième jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Pour l'obéissance à la loi, j'étais pharisien et j'étais tellement passionné que je persécutais l'Église. Pour mener une vie conforme à sa volonté, prescrite par la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison à ce bien suprême, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Et je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être reconnu juste par la loi. C'est par la foi du Christ que je suis juste, et je suis juste grâce à Dieu, en m'appuyant sur la foi. Tout ce que je désire, c'est connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Et j'ai l'espoir que je parviendrai moi aussi à la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai déjà obtenu tout cela, que je sois déjà devenu parfait, mais je m'élance pour tâcher de le saisir, parce que moi-même j'ai été saisi par Christ. Frère, je n'estime pas l'avoir déjà saisi. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but, en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Christ Jésus. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous valons ? Qu'est-ce qui me donne de la valeur ? Qu'est-ce qui me donne le sentiment d'avoir le droit d'être là parmi vous, de vous parler ? Qu'est-ce qui, en moi, ou dans mon environnement, me rassure quant à l'avenir? Je lis souvent de la littérature jeunesse avec mes fils aînés, des romans comme Harry Potter, Les Gardiens des Cités Perdues, Artemis Fowl, ou des mangas comme One Piece, Naruto. Et presque tous les héros de ces séries de jeunesse ont en point commun d'être des héritiers d'un passé spécial ou d'avoir reçu des pouvoirs qui les distinguent des autres, ou une personnalité hors norme. Et nos jeunes en construction, en pleine identité, qui commencent à découvrir le monde des adultes, sans avoir de maîtrise dessus, ils aiment bien rêver à devenir eux-mêmes spéciaux, comme ça, avoir cet atout, ces cartes dans leurs mains, qui leur permettront d'affronter un monde plein d'insécurité et d'instabilité, tout en ayant une assurance face à l'avenir qu'ils ne contrôlent pas. Nous autres, les adultes, on rêve un peu moins de super-pouvoirs quand même. Toutefois, nous avons aussi construit notre estime de nous-mêmes, parfois fortement ou parfois faiblement. Il y en a parmi nous qui manquent d'estime d'eux-mêmes. Il y en a parmi nous qui ont du mal à exister face aux autres, exprimer leurs sentiments, partager leurs réflexions, donner leurs opinions. Tout cela, ce sont des choses qui vont alors coûter de l'énergie et être vécues comme des prises de risque. D'autres ont peut-être bien construit leur estime d'eux-mêmes et leur façon d'être vis-à-vis du monde. Et ils s'assument tranquillement. Et puis il y a peut-être ceux qui sont orgueilleux, qui souhaitent se penser meilleurs que les autres. Mais sans doute que ça concerne personne ce matin ici, ça. Et d'où cela vient-il ? Cela vient, toute cette construction de notre rapport au monde, de plein de choses, de notre héritage du passé, de la famille dont on est issu, de l'éducation qu'on a reçue, de l'affection, de l'attention qui nous a été accordée, de notre parcours de vie, scolaire, sentimental, professionnel, social, des opportunités saisies ou pas, des choix déterminants que nous aurons faits. Il y a ce qu'on aura accompli, ce qu'on aura bâti, ce que l'on aura acquis. Tous nous aspirons à vivre dans une certaine assurance. Nous plaçons ces assurances à différents endroits de notre vie. Plusieurs éléments donnent à notre vie une stabilité. Quand on est jeune et quand on est enfant, la plupart de cette assurance se concentre à un seul endroit, mes parents. Tant qu'ils sont là, je n'ai pas à m'inquiéter de l'avenir. Et plus on grandit et plus on voit la limite de ces raisonnements-là, et on a besoin de construire notre assurance de notre vie sur d'autres choses. C'est peut-être la famille, le travail, nos possessions matérielles, notre argent, nos diplômes, nos talents, nos cercles relationnels. Et on se dit, tant que j'ai ceci ou tant qu'il y a cela, tout va bien. Je peux m'en sortir. Je vous partage un petit témoignage pour bien aller dans ce que je veux vous partager. La plupart de vous savez que Camille traverse un temps de dépression depuis la mort de Matisse. Et dans nos échanges et nos partages et nos hypothèses, on a imaginé un futur où, en fait, elle ne retrouverait pas vraiment son chemin vers la foi et où, quelque part, elle serait tellement pleine de doutes qu'elle ne se considérait plus comme une chrétienne. Alors, je vous rassure, ce n'est pas le chemin qu'elle prend aujourd'hui, mais l'exercice était vraiment fort. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que je ne pourrais pas continuer à être pasteur, que je changerais de carrière et que je chercherais à bâtir une vie autrement. Mais ça ne m'inquiétait pas du tout. Être pasteur ne fait donc pas partie des choses dont j'ai besoin pour avoir de l'assurance dans qui je suis, face aux autres et dans mon avenir. Le deuxième constat qui m'est venu, ça a été qu'au sein de notre couple, on ne pourrait plus connaître la même unité, la même harmonie de construction pour aligner nos choix d'éducation, pour faire grandir notre relation, accompagner nos enfants. Et dans mon cœur, à ce moment-là, il y a eu comme un espèce de gouffre d'inconnu qui s'est ouvert, une peur profonde, une peur que je n'avais jamais connue dans mes souvenirs. J'ai compris que l'unité, l'harmonie dans ce couple-là que je vis, l'accord entre moi et mon épouse, est dans ma vie un des socles fondamentaux sur lesquels je base mon assurance. Si j'étais amené à perdre ce socle, pour quelque raison que ce soit, je ne suis pas aujourd'hui en mesure de m'imaginer rebondir. Quand j'essaie de me dire « mais qu'est-ce qui se passerait ? Comment est-ce qu'on s'organiserait ?» C'est le blackout, c'est le vide, l'inconnu. Mon imagination n'arrive pas à se projeter là-dedans. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir ce genre de fondement est mal ou qu'il est un signe de non-foi. Toutefois, devant le Seigneur, et pour reprendre les mots de l'apôtre Paul, c'est une assurance qui repose sur la chair et non sur l'esprit. Et puisqu'elle est sur la chair, je ne peux pas garantir qu'elle ne cédera jamais. Je ne peux pas garantir qu'elle est indestructible. Voilà le but de mon propos, c'était d'illustrer ça. Je suis sûr que vous-même, vous avez peut-être déjà trouvé, expérimenté, quelles sont ces choses dans votre vie. On n'en a pas qu'une, hein, on peut en avoir plusieurs, qui fondent votre assurance. Que s'il vous était retiré, il y aurait cette peur, ce vide, cette incapacité de me projeter, d'imaginer comment je pourrais rebondir. Et je reviens à l'épître de Paul. Je vous rappelle un petit peu l'arrière-plan. La ville de Philippe, première église chrétienne construite en Europe, en Macédoine, au 1er siècle. La cité est particulièrement habitée par des légionnaires romains à la retraite. Au cœur de la ville, qui bénéficie d'un statut un peu particulier auprès de Rome, il y a le culte à l'empereur qui est au centre de la vie spirituelle de cette cité. Et de façon mineure aussi à l'impératrice. J'ai appris qu'il y avait des cultes à l'impératrice. Et le contexte de la lettre fait comprendre que les chrétiens là-bas vivent sous une certaine pression, persécution. Et savoir que leur père spirituel, celui qui a fondé l'Église, qui a lancé le mouvement quelque part, Paul, est emprisonné chez les Romains, sans être forcément protégé par une puissance magique de Dieu qui vient d'en haut, ce n'est pas forcément pour les rassurer dans ce qu'ils affrontent ou ce qu'ils vont affronter. Paul, alors, dans un élan d'amour, écrit cette lettre pour les rassurer. Ah, j'ai oublié. Et donc, ces chrétiens avaient envoyé cet ami Épaphrodite, un chrétien parmi eux, vers Paul pour l'accompagner, le soutenir dans ses besoins en prison. Et en plus de ça, Épaphrodite, une fois qu'il arrive sur place, il tombe malade, presque à en mourir. Donc, les circonstances, en fait, semblent aller de mal en pire. Et Paul veut encourager ces chrétiens à tenir bon. Il veut les enraciner dans cette ville nouvelle qu'ils connaissent en Christ. Son incarcération, pour lui, n'affecte rien, son zèle, sa situation, son amour. Au contraire, c'est une excellente occasion pour toute la garde prétorienne où il est enfermé de connaître Christ. Les chrétiens autour de Paul, un peu opportunistes, qui saisissent l'absence de ce grande figure de l'Église pour eux avoir un peu de promotion et qui se mettent à prêcher ici et là pour se faire un nom et une réputation, même ça n'attriste pas Paul. Rien ne semble l'ébranler. Il demandera simplement aux chrétiens de Philippe d'être vigilants à ces faux bergers, ces faux enseignants qui n'ont au fond d'intérêt que pour eux-mêmes. Et dans le passage qui nous intéresse aujourd'hui, Paul veut révéler, expliquer cette confiance qu'il a, cette assurance profonde, malgré sa situation pourrie qu'il a. Et le passage, justement, que nous avons lu commence par ceci. « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Oui, réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Et il insiste, il dit « Cela vaut bien mieux pour vous que je répète cette chose-là. » Dans d'autres traductions, il est dit « C'est une sécurité pour vous que de vous réjouir d'être unis au Seigneur. » Se réjouir dans le Seigneur, ça ne veut pas dire avoir un sourire crispé et forcé lorsqu'on rentre à l'église. Se réjouir dans le Seigneur, ça ne veut pas dire non plus que dès qu'on est un peu en train de rouméguer, de se culpabiliser, parce que bon voilà, il nous est arrivé ceci, « Ah mais pardon, je dois me réjouir. » Se réjouir dans le Seigneur ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui nous arrivent qui sont mauvaises, négatives, et qui nous font souffrir. Oui, j'entends ça parfois dans l'Église. Paul appelle à contempler, à à méditer, à creuser, à digérer cette réalité un peu étrange. Je suis uni avec Jésus. Avez-vous la mesure de ce que toutes et tous vous êtes devenus lorsque vous avez été unis à Christ par l'Esprit Saint ? Cette marque dont elle a parlé, ce n'est pas une marque physique, c'est une marque invisible et spirituelle. Nous avons contemplé cette réalité à l'étude biblique jeudi, et je vais essayer d'y retourner un petit peu ce matin. Nous les chrétiens, on pense que tout être humain reflète Dieu. Nous sommes toutes et tous des images de Dieu. Mais depuis que le péché est entré dans le monde, notre nature humaine est déchue. Nous sommes habités par un certain goût pour le mal et nous habitons dans l'ombre de la mort et de la souffrance au quotidien. La nature humaine est déchue. Et pour les chrétiens, cette nature humaine doit être rachetée dans toutes ses dimensions, notre corps, notre esprit, notre âme. Être uni à Jésus, c'est commencer cette transformation spirituelle. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, vient se mêler à notre esprit. Nous recevons une nouvelle nature en nous, malgré l'ancienne qui perdure. Et dans cette unité, nous sommes connectés à Jésus et à travers Jésus, connectés à Dieu. Qu'est-ce que ça change spirituellement ? Spirituellement, mon statut devant Dieu est complètement transformé. Je passe du rebelle qui ignore que Jésus est le roi et qui ignore que Dieu est puissant à un sujet. Je suis le sujet du grand roi. Je suis le prêtre, l'intendant du Dieu. Je suis l'enfant du Père infini. Bref, ma relation à Dieu devient formidable. Je peux prier, je peux parler, recevoir son inspiration, me sentir proche de lui, éprouver en moi son amour, sa patience, sa compassion. Si vous connaissez ces choses, si vous les vivez, s'il vous plaît, dites Amen. Il y en a qui les cherchent et il faut qu'ils soient encouragés pour les trouver. Spirituellement, je deviens réconcilié et proche de Dieu. Je suis un participant, un héritier de Jésus. Tout cela, non pas parce que j'aurais, moi, atteint une certaine excellence dans ma pensée, dans mes actes, dans mes paroles, mais parce que Jésus, lui, a atteint cette excellence et que ma connexion spirituelle à lui me plonge en lui et lui en moi. Toute mon existence est dans la sienne. Je profite de tous ses mérites sans les mériter. Nous appelons cela la grâce. Et pour Paul, cette grâce de Jésus, pour ceux qu'il est parvenu à en mesurer lui, elle vaut mieux que tout ce que l'humanité peut offrir. Je vais revenir sur ça plus tard, et là je veux revenir sur le texte. Réjouissez-vous d'être unis dans le Seigneur, dit Paul. Prenez garde à ceux qui commettent le mal, ces chiens, ces partisans d'une fausse circoncision. En fait, c'est nous qui avons la vraie circoncision, car nous servons Dieu par son esprit. Nous mettons notre fierté en Christ. Nous ne fondons pas notre confiance sur les privilèges humains. Donc, il les encourage à se réjouir et il les met en garde contre ceux qui, tout en étant dans l'Église, se réjouissent de ce qu'ils sont par eux-mêmes, plutôt de ce qu'ils sont en Jésus. Paul dit qu'ils se confient dans leurs privilèges humains. Ils ne servent pas Dieu par l'Esprit qui est déposé dans le cœur des croyants, mais par ce que Paul appelle la chair. La chair, ce n'est pas forcément mauvais en soi. La chair n'est juste pas tournée vers Dieu par nature. Et puisque Dieu donne son Esprit à ceux qui le lui demandent, et parce que l'Esprit nous conduit dans le culte, dans le service, dans la sagesse, il n'y a pas aucun sens à être un disciple de Jésus sans vivre par l'Esprit. C'est contradictoire, c'est comme être un écologiste qui roule au diesel, ça n'a pas de sens, ou être un nudiste non pratiquant. Voilà pourquoi Paul met en garde ces prétendus enseignants n'ont à cœur que leur ventre et non leur foi. Pour enfoncer le clou, Paul insiste que si le but du jeu, c'était d'apparaître au jour du jugement dernier, au top des valeurs humaines de ce monde, lui, qui était un juif qui vivait en Palestine au 1er siècle, il était déjà parvenu au top de sa culture. Au niveau max de ce que sa société peut exiger de quelqu'un. Et c'est pourquoi il liste toutes ces choses qui nous paraissent forcément absurdes à nous, parce qu'elles n'ont pas de sens par rapport à notre contexte de vie aujourd'hui. Mais pour son époque, il était devenu l'élite de l'élite du juif pratiquant, vivant à Jérusalem. Mais tout ce qu'il avait bâti, son nom, son identité, tout ça, il n'a pas hésité à l'abandonner pour que tout ce qui pourrait faire sa valeur, tout ce qui pourrait donner de l'assurance, vienne de son attachement à Christ. « Je considère tout cela comme des déchets, dit-il, afin de gagner Christ et d'être parfaitement uni à lui. » Littéralement, le mot qu'il emploie, c'est pas « déchets », c'est vachement plus vulgaire. Donc vous changez dans votre tête. Il désire que rien ne puisse faire obstacle, que rien ne puisse le freiner. Lui qui avait tout, a volontairement tout laissé pour être aimé sans condition, accepté comme il est, pardonné pour toujours en Jésus. Et quelque part, il imite Jésus, parce que Jésus était l'égal de Dieu, le Fils du Père, et il a tout abandonné pour devenir un simple homme, un serviteur, afin de nous gagner tous, nous. On entend souvent dans les films d'action que ceux qui n'ont rien à perdre sont ceux qui sont les plus dangereux. Mais cette expression décrit surtout le cas de personnes désespérées qui ont tout perdu et qui, dans une vengeance, vont partir faire la peau de ceux qui leur ont tout pris. Paul n'est pas désespéré. Plutôt, ce qui fonde le sens de sa vie est d'être uni à Christ. Et tout le reste, c'est pas que ça n'a pas d'importance, c'est que ça en a moins que d'être uni à Christ. Paul ne se fiche pas de tout. Mais tout repose d'abord sur le fait de connaître Jésus. Paul aime les Philippiens, par exemple, il se soucie d'eux. Il aime Timothée, Epaphrodite, ses collaborateurs chrétiens. Il a le souci des églises qu'il a implantées, et puis de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais il est libéré de ses peurs concernant l'avenir, à propos de ce que les autres pensent de lui, de son statut aux yeux de tous. Son assurance repose dans ces choses-là sur son union avec Jésus. Si je reprends mon illustration concernant ma relation avec Camille, si ma communion avec mon épouse est un fondement de ma vie et qu'au-dessous de ce fondement il n'y a rien, alors je serais désespéré s'il arrivait quelque chose à cette communion. En parlant de ce que je vous dis avec Camille hier, elle m'a rétorqué avec humour « Ah, mais ça ne me met pas du tout la pression au moins. » Elle avait raison dans son ironie. Tel que je suis aujourd'hui, je suis profondément dépendant qu'elle aille mieux. Au point que je ne pourrais pas supporter qu'elle n'aille pas mieux. Mais alors comment pourrais-je correctement l'aider, l'aimer ? Comment pourra-t-elle correctement s'appuyer, être en dialogue avec moi? Si je veux pouvoir être bon pour elle, quoi qu'il advienne, j'ai besoin de m'appuyer sur quelque chose de plus profond encore. Sans appui, je serais tenté, peut-être, de lui mettre la pression, de la menacer, sans m'en rendre compte, de la contraindre, ou de me mentir à moi-même, pour ne pas voir ce qui est en train de se passer. Ou peut-être de me renier dans ce que je crois, pour rester uni en toute chose. Et pourquoi pas, peut-être, si c'est trop dur, la quitter pour retrouver un conjoint qui partage mes convictions, qui soit au Seigneur. Si ce fondement cède sous mes pas et qu'au-dessous il n'y a pas le Seigneur pour m'empêcher de sombrer, je serai quelqu'un qui perd tout et qui va être prêt à prendre tous les risques pour ne pas tout perdre. C'est pas une bonne chose. Au lieu de cela, je suis appelé maintenant à affronter cette peur et à la comprendre et à chercher comment est-ce que Christ peut me rassurer Comment est-ce que dans ma relation avec Jésus et dans tout ce qu'il m'offre et tout ce qu'il est pour moi, je peux trouver une espérance telle que ce tableau tout noir là, ce vide dans lequel je n'arrive pas à projeter une imagination, eh ben soit rempli parce que Christ est avec moi. Et qu'alors je puisse être l'allié dont elle aura besoin, le mari fidèle à ses vœux, à son épouse, même si elle s'éloigne du Seigneur. Ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, mais c'est juste pour la théorie. Je reviens à Paul. Paul n'a pas la prétention d'être déjà parfait. Il le dit, il le rappelle. Non que j'ai obtenu tout cela, ou que je sois devenu parfait. Je m'élance pour tâcher de le saisir parce que j'ai été saisi par Christ. Lui encore connaît des peurs. Lui encore vit dans l'ombre de la mort et de la souffrance. Mais il cherche cette liberté en Christ de toutes ses forces, pour vivre comme son Seigneur, pleinement consacré. Et ce qu'il cherche, il exprime ainsi. « Tout ce que je désire, c'est connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » D'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. La puissance de la résurrection, qu'est-ce que c'est? Imaginez quelque chose qu'on vous révèle, quelque chose qu'on vous apprend. Le Seigneur vous prend, vous transporte dans le royaume des cieux et vous voyez, vous apprenez des choses, vous découvrez la puissance de la résurrection. Je ne sais pas ce que c'est, hein, mais imaginons. Et qu'une fois que vous connaissez cette chose, la peur de mourir devient dérisoire. Le regard des autres devient complètement secondaire sur vous. Votre estime de vous-même est tellement bien ancrée que vous vous sentez à la fois formidable et unique et totalement humble et reconnaissant de tout ce qui vous a été donné. Une chose qui vous enracine tellement que dans toutes vos relations, ben vous craignez plus les trahisons, les abandons, les déceptions. Vous savez que ça arrive, mais ça ne vous fait plus peur. Une fermeté qui vous autorise à être vous-même, constamment. Que vous soyez avec les plus puissants du monde ou avec les plus modestes. Une chose qui vous donne l'envie immédiate de cesser toutes ces habitudes qui vous minent. Tous ces mauvais réflexes que l'on a dans nos relations avec les autres. Toutes ces choses qui nous gardent attachés au péché et qui nous détruisent à petit feu. Une chose qui vous oriente totalement vers la lumière, la vérité et la vie, et qui vous donne un désir puissant, une motivation, une joie à bannir de votre quotidien tous ces petits choix de mort que l'on fait. Bien, cette chose existe, c'est la puissance de la résurrection du Christ. Et cette puissance vous sera totalement appliqué au jour du retour de Jésus. Vous serez comme douché sous un torrent de cette puissance de vie immortelle qui vous régénérera complètement. Et c'est vers cela que Paul court de toutes ses forces. Et c'est pour cela que la seule chose sur laquelle il veut être fondé, la seule assurance sur laquelle il veut être trouvé au moment de sa mort ou alors lorsque Jésus revient, c'est « j'ai foi en Jésus ». Et tout me vient de lui. Paul écrit, je n'ai pas la prétention d'être reconnu juste grâce à la loi, c'est par la foi du Christ que je suis juste, et je suis juste grâce à Dieu en m'appuyant sur la foi. Il ne parle pas au futur, il parle au présent, il parle d'aujourd'hui. Et donc maintenant que j'ai vu cette peur en moi, dans ma relation de couple, je suis appelé maintenant à bâtir une relation plus solide, encore au-dessous de celle que j'ai. Il ne faut pas que je me sépare de Camille en disant « Ah, tu vas m'éloigner de Dieu ». Non, il faut que je pose quelque chose maintenant que j'ai conscience au-dessous. Parce que toutes les ressources dont j'ai besoin pour construire cette assurance au-dessous, elles m'ont été données lorsque j'ai reçu Christ en moi. Tout m'a été donné dans cette communion mystérieuse. Mais ma relation à Jésus, Quelque part, c'est comme un espèce d'immense hangar de plusieurs kilomètres rempli de choses qu'il me faut découvrir, investir, apprendre. J'ai tout le matériel dont j'ai besoin, mais je ne connais pas tout le matériel que j'ai. J'ai les clés, je peux y rentrer tout le temps. C'est un élan de ma part que cette relation qui m'a été donnée, dont Jésus est à l'initiative, vienne féconder ma vie. Vous aussi, vous avez les clés de votre hangar. Vous aussi, vous êtes plongé en Jésus. Vous aussi, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Vous aussi, vous avez tout le matériel qu'il vous faut pour construire ces fondations solides dans vos vies. Il ne s'agit pas de vous débarrasser de tout le système de sécurité, de rassurance que vous avez construit, mais que celui-ci ne soit pas le seul que vous ayez, et que plus profondément encore, vous ayez une fondation qui est Christ. Vous connaissez l'histoire sur le fou, sur le sage a bâti sa maison. S'il a bâti sa maison sur le roc, même si la tempête arrive, il ne sera pas détruit. Pour vous-même, pour vous y encourager, je vous jette des pistes. C'est ce qu'on a vu à l'étude biblique. Souvent, nous ne réalisons pas qui nous sommes en Christ. Ou nous le savons là, ou nous ne savons pas ça là. Et pour que ce soit vraiment une fondation, il faut que ça soit là. Parmi elles, Jésus a dit, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Parole du Seigneur. Amen. Qui parmi vous se sent plus proche de Dieu que ne l'était Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui était plein de l'Esprit dès le sein de sa mère, qui vivait dans le désert en mangeant des sauterelles et du miel sauvage de manière totalement autarcique, ne dépendant d'aucune société, habillé en peau de bête, il osait critiquer les puissants, il a critiqué Hérode, il en a perdu la tête. Qui parmi vous se sent plus grand que lui ? Et pourquoi Jésus a dit ça alors ? Est-ce qu'il s'est trompé ? Vous qui avez été scellés du Saint-Esprit, vous êtes déjà dans le royaume, n'est-ce pas ? Puisque Jésus, Paul a écrit, « Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon du péché. » Vrai ou faux ? Donc vous êtes dans le royaume. Donc, même si vous vous sentez le plus nul, le dernier des chrétiens, le plus petit, vous êtes plus grand que Jean-Baptiste, n'est-ce pas ? Amen. Vous voyez, nous ne nous sentons pas le droit de lever la main et de répondre « moi je le suis ». Et vous savez pourquoi on ne se sent pas le droit ? Parce que nous regardons en nous-mêmes, à notre vie, à nos œuvres, à notre péché, à notre comportement, à ce que nous faisons de notre relation avec Jésus. Et nous n'osons pas du tout. Et là, du coup, on regarde ça et puis on se dit, ben non, je ne suis pas meilleur que Jean. N'est-ce pas ? Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Mais ce qu'on ne se dit pas, c'est, je regarde à Jésus. Jésus est plus grand que Jean. Ma vie est cachée en Jésus. Ah oui, je suis plus grand que Jean. Bien sûr. Parce que lui, il l'est. Moi, je le suis. Ma valeur, ma dignité, mon statut me sont communiqués par Jésus. C'est exactement ce que Paul veut dire lorsqu'il me dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur, d'être unis au Seigneur. » Mais moi, on m'a appris que ce qui fait ma valeur, c'est ce que je mérite. N'est-ce pas ? Et je ne sais pas penser en me disant « ma valeur, c'est ce qu'on me donne. » Je ne sais pas penser comme ça. Donc il faut que je apprenne à me réjouir dans le Seigneur, à méditer, à repasser des vérités comme ça. Là, je vous en cite une, je suis plus grand que Jean-Baptiste. C'est une vérité, par exemple. qui vient du fait que je sois uni au Seigneur. Mais je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas l'habiter, je ne sais même pas la croire. Je ne sais même pas m'appuyer dessus. D'accord ? Mais imaginez quelqu'un qui prie et qui se sente, qui croit profondément qu'il est plus, mieux placé, plus proche de Dieu que le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Vous ne pensez pas que ça va changer sa manière de prier ? Sa foi ? Non ? Ma valeur, ma dignité, mon statut me sont communiqués par Jésus. Si je veux oser dire « je suis plus grand que Jean-Baptiste » et le croire, pas par orgueil, il me faut apprendre à fonder ma valeur sur ce que dit Jésus. Presque on pourrait faire des ateliers ensemble, on fait des petits groupes, on prend une vérité, voilà. Parce que je suis attaché à Christ, il est impossible que Dieu se mette en colère contre moi. Vrai ou faux ? Vrai, ok. Maintenant on travaille ensemble, qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que c'est vrai ? Il y a des moments où tu penses que Dieu se met en colère. Oui, oui, je pense que c'est vrai, etc. Mais tu le vis vraiment ? Il y a des moments où tu t'es emparé de cette vérité pour te protéger d'une attaque ou quelque chose comme ça ? On pourrait travailler à comment est-ce que ces vérités, en fait, on les fasse descendre de là à là. Pour avoir une assurance inébranlable, nous pouvons travailler ces vérités. Ça ne nous rend pas invulnérables. Hein. On va souffrir, on va se prendre des trucs dans la tronche, dans le cœur, qui feront mal, on va mourir. Mais le gouffre que je vous ai décrit, ces ténèbres où l'avenir, où mon imagination n'arrive plus à penser la suite, à rebondir, à me relever, cette désespérance où je me dis « je serai fini, achevé », eh bien, elle n'arrive plus. J'aurai peur, mais pas au point de perdre tout espoir. Je souffrirai, mais pas au point de me renier pour fuir la souffrance. Je pleurerai, mais pas au point d'abandonner la course. Paul écrivait ceci aux Corinthiens. Il disait, nous portons ces trésors dans les vases de terre afin que la puissance de Dieu soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toutes les manières, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Vous voyez, c'est comme s'il y a un socle et que ça ne peut pas descendre au-dessous d'un certain seuil parce qu'il y a cette assurance. Je ne peux pas le faire pour vous, je peux le faire que pour moi. Je ne peux pas trouver, vous dire quelles sont ces choses en vous qui ont besoin d'être étayées, d'être fortifiées, d'avoir une belle dalle bien solide qui soit coulée au-dessous. Je vous ai illustré une des choses que j'ai découvert en moi. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il vous appartient d'enraciner et de fonder votre vie sur cette assurance. Alors je vous le redis de la part de Dieu lui-même, lui qui nous a donné Jésus-Christ, la pierre de fondation à partir de laquelle il faut bâtir notre vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen.